Elle ose prendre la parole malgré les menaces. Dans ce journal, le témoignage de la mère d'un soldat russe qui était à bord du Moskva en avril dernier. Le bateau a coulé en mer Noire, elle n'a aucune nouvelle de son fils. La théorie du suprémacisme blanc est un poison, dit ce soir le président américain Joe Biden. Il se recueille en ce moment à Buffalo où 10 personnes ont été tuées ce week-end. Première journée dans son rôle de première ministre pour Elisabeth Borne. Elle garde sa casquette de candidate dans le Calvados pour les législatives. Nous entendrons ses adversaires. Les motards aussi devront passer par la case contrôle technique plus vite que prévu. Le Conseil d'État a donné raison à 3 associations. Parenthèse de soleil et de stars, ce soir nous irons sur la Croisette au Souvre pour 10 jours la 75e édition du Festival de Cannes. Et puis au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien une première ministre alors, oui ben et alors, hein, c'est la compétence qui compte, le genre on s'en fiche, évidemment oui, mais quand on réalise que ce virage-là, beaucoup de pays autour de nous l'ont fait bien avant, quand on réalise à quel point on souligne qu'il fallait une femme à Matignon, quand on entend Elisabeth Borne espérer servir d'exemple aux petites filles, on se dit que les femmes de pouvoir, que ce soit de la politique ou des entreprises majeures, tout cela reste une exception et on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est une parole rare, courageuse, risquée, celle des familles des marins russes du Moskva, ce vaisseau amiral russe coulé en mer Noire le 14 avril dernier, touché selon Kiev par des missiles ukrainiens, endommagé par une explosion à bord selon Moscou, qui n'a jamais parlé d'un naufrage et qui assure que les 500 marins russes présents à bord ont tous été évacués. Mais que sont-ils devenus? Leurs familles, malgré la peur des représailles, commencent à parler, comme cette maman d'un jeune de 20 ans. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Jacqueline.
Cette femme n'a aucune nouvelle de son fils, elle réclame la vérité.
Oui, longtemps silencieuse, Olesya, la mère inconsolable de ce marin de 20 ans.
Il m'est impossible d'exprimer ce que je ressens. Je suis dévastée par une douleur permanente.
Son fils s'appelle Nikita, parti de Sébastopol en Crimée sur le Moskva peu avant le début de la guerre en direction des côtes ukrainiennes.
Le 13 mars dernier, il m'a appelé avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Il m'a dit « Maman, c'est moi, ne me pose pas de questions, je n'ai rien le droit de te dire ». Puis il a raccroché et un mois plus tard, nous avons eu connaissance de la tragédie.
Depuis, Olesya se démène au sein d'un collectif de familles de marins disparus très actifs sur les réseaux sociaux jusqu'à la semaine dernière et une réunion avec les autorités russes qui laisse entrevoir le pire.
Un jour, on nous a soumis un document et on nous a demandé de le signer. C'était une déclaration préparée à l'avance. Je devais reconnaître la mort de mon fils en échange d'une indemnisation à hauteur de 7 millions de roubles, soit 100 000 euros environ.
Une déclaration qu'elle refuse catégoriquement de signer, tout comme elle rejette la version officielle selon laquelle les 500 membres d'équipage ont tous été évacués.
Tout le monde ment. Nous sommes toujours à la recherche de nos fils. On ne sait rien de ce qui s'est passé. Ils ne figurent sur aucune liste de disparus. Ce que je souhaite, c'est que tous les coupables de ce drame soient punis.
Olesya est déterminée à se battre sans relâche pour faire éclater la vérité dans son pays, la Russie, où les médias sont censurés.
Omar Waman avec l'aide de Denis Katayev. Et pas sûr que Moscou en dise plus sur le sort des derniers combattants de la Syrie Azovstal de Mariupol, symbole de la résistance ukrainienne à l'invasion russe. Plusieurs centaines de combattants retranchés dans les sous-sols se sont rendus. 265 combattants ukrainiens se sont constitués prisonniers ces dernières 24 heures selon Moscou. Plus de 50 d'entre eux sont grièvement blessés. Le ministre russe de la Défense assure qu'ils ont été envoyés dans les territoires contrôlés par les forces russes et pro-russes. Et au 83e jour du conflit, le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont parlé cet après-midi une nouvelle fois. Paris qui va intensifier ses livraisons d'armes, dit aujourd'hui l'Élysée. Et puis la Cour pénale internationale qui annonce l'envoi sur place en Ukraine de 42 enquêteurs et experts. La tuerie de Buffalo et du terrorisme, les mots du président américain Joe Biden ce soir en déplacement sur le site de la tuerie de ce week-end. Un suprémaciste blond de 18 ans a tué 10 personnes afro-américaines. Le président américain est donc sur place, symbole fort dans l'histoire américaine. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir.
Joe Biden qui a rencontré les familles des victimes et qui vient donc tout juste de prononcer un discours.
Oui, dans lequel il a d'abord rendu hommage aux 10 victimes. Jill et moi, nous comprenons vraiment la douleur que vous pouvez ressentir. Et puis, il a longuement insisté, vous en avez parlé, sur le suprémacisme blanc dont se revendique le jeune homme de 18 ans qui a tué 10 personnes ici samedi après-midi. C'est un poison, a dit le président américain, qui promet que la haine ne gagnera pas, qu'elle n'aura pas le dernier mot, et qui redit qu'on ne peut pas laisser les racistes détruire l'âme de l'Amérique. C'est ce qu'il a dit. Le couple présidentiel a vu les familles, il s'est recueilli devant les photos, les mots, les bougies, les 10 silhouettes blanches qui symbolisent les 10 tués à quelques mètres de nous devant le supermarché où a eu lieu la fusillade. La première dame y a déposé un bouquet de fleurs blanches. Ils se sont recueillis main dans la main, mais les riverains ne croient pas au miracle. Voici Carl White qui vit ici depuis toujours.
Il va faire un point devant les caméras. Il a sûrement trouvé les mots pour les familles des victimes, la ville. Mais il ne va pas rentrer au bureau Oval et dire « on interdit les armes et la NRA ». La principale association de défense du port d'armes. Elle met beaucoup d'argent sur la table pour préserver l'autorisation d'avoir des armes. Seuls les militaires et la police devraient avoir le droit d'avoir des fusils d'assaut. Mais ils ne peuvent pas stopper la haine complètement. Mais on peut faire en sorte d'éviter ce genre de drame.
Voilà l'opinion de la plupart des habitants de ce quartier où près de 8 habitants sur 10 sont noirs et où les riverains assurent qu'ils sortiront encore plus soudés qu'avant. Joe Biden est en train de quitter Buffalo en ce moment.
Sébastien Paour à Buffalo. Au Liban, pas de majorité parlementaire pour le mouvement armé Hezbollah et ses alliés. Ils étaient majoritaires au Parlement depuis 2018. C'est fini. Selon les résultats désormais définitifs des élections législatives de dimanche, l'opposition traditionnelle, également les candidats issus de la contestation de 2019, font une percée significative. Aurélien Colli.
L'image a fait le tour des réseaux sociaux, des partisans du Hezbollah, mécontents d'avoir perdu leur majorité, qui brûle l'immense point levé de la révolte libanaise qui trône depuis 2019 dans le centre de Beyrouth. Cette révolte a été politisée, manipulée, justifie Hussein. Comme beaucoup de militants du Hezbollah, il est convaincu que la crise économique, ce soulèvement, la défaite électorale, tout ça fait partie du même complot pour affaiblir son parti, pour ses liens avec l'Iran et sa résistance armée au voisin Israël. Je ne suis pas satisfait. Il y a des meurtriers qui ont été élus, poursuit Hussein, en visant cette fois les dirigeants des forces libanaises. L'ancienne milice chrétienne reconvertie en parti politique sort renforcée du scrutin en ayant capitalisé justement sur le rejet du Hezbollah, un État dans l'État avec sa milice, un proxy de l'Iran qui empêcherait l'aide internationale à un Liban en crise. Gilbert leur a donné son vote.
La plupart des gens ici acceptent qu'il y a une opposition contre Israël, mais par l'État. Pas par des milices. On ne peut pas espérer un essor en se tournant vers l'Iran, la Chine ou la Corée du Nord. Je préfère le Liban tourner vers l'Occident.
Fragilisé par ce scrutin, le Hezbollah a mis en garde aujourd'hui par la voix d'un député. N'attisez pas la guerre civile. S'il n'y a pas de gouvernement d'union nationale avec lui, le Liban sombrera dans l'abysse. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Vers une nouvelle confrontation entre Londres et Bruxelles, Londres menace de modifier de façon unilatérale le protocole nord-irlandais, accord négocié dans le cadre du Brexit et qui permet à l'Ulster de rester dans l'Union douanière européenne. Le gouvernement britannique veut légiférer dans les semaines à venir.
Évidemment, il y aura l'ombre de l'Ukraine sur le tapis rouge, mais on ne boude pas notre plaisir à l'heure de la grand-messe du cinéma.
À Cannes, la cérémonie d'ouverture qui se déroule en ce moment même au Palais des Festivals avec Virginie Efira en maîtresse de cérémonie, 15e édition du festival. Et enfin, après 2 ans perturbés par la pandémie, la fête reprend avec son allure de croisière, 21 films en compétition, un président français du jury, Vincent Ladon, et qui a gravi les marches tout à l'heure. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
On retrouve donc avec plaisir le défilé des marches. Il y a donc déjà du beau monde pour ce premier jour, ce premier soir au Palais des Festivals.
Ah, je vais même vous dire, tout ce beau monde est allé s'installer dans le palais pour écouter Virginie Efira, la maîtresse de cérémonie. Les photographes ont commencé à emballer leurs appareils. Ils reviendront tout à l'heure, immortalisés à la fin de la projection de Coupé, toute l'équipe du film de Michel Hazanavicius, montrée en ouverture ici à Cannes, et qui sont en même temps au cinéma pour jouer, on l'espère, un rôle de détonateur du retour du public dans les salles. C'est une comédie de zombies avec Bérénique Bejo, notamment, arrivée sur le tapis rouge sur la musique des Fratellis dans une combinaison rose et électrique incrusté de strass magnifique. Romain Duris également qui a lui troqué sa chemise hawaïenne de réalisateur hystérique dans le film pour un smoking beaucoup plus traditionnel et plus adapté à la situation. Un tapis rouge qui a vu défiler Forest Whitaker, qui va recevoir tout à l'heure une palme d'honneur, Marco Bellocchio, le réalisateur italien, ou encore Agathe Roussel, comédienne du film Titane, récompensée de la palme d'or l'année dernière. Françoise Lebrun évidemment inoubliable dans La Maman et la Putain de Jean Eustache, dont la version restaurée Corée a été projetée en début d'après-midi avec une standing ovation de 10 minutes. Elle est arrivée dans une robe bleue électrique magnifique. Tout ce petit monde et le jury de Vincent Lindon est donc à l'intérieur du palais pour suivre à présent la cérémonie d'ouverture. C'est une édition anniversaire sans jauge, sans masque, mais avec évidemment une prise de contact sur le monde et à venir de nombreux hommages aux réalisateurs ukrainiens.
Corinne Pellissier en direct du Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture à vivre en ce moment sur France 2. Quand le spectacle rejoint la tragédie à la barre aujourd'hui au procès du 13 novembre à Paris, les membres du groupe Eagles of Death Metal, le chanteur et l'ex-guitariste du groupe qui était sur la scène du Bataclan le soir des attentats, ils sont venus témoigner devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès qui a repris après une nouvelle suspension due à un cas de Covid parmi les accusés, 122e jour d'audience avec donc ce témoignage particulier aujourd'hui. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Jacqueline.
Les membres du groupe ont rendu hommage aux 90 personnes décédées dans la salle de concert.
Oui, Jesse Hughes, le chanteur leader du groupe, s'avance vers la barre dans un costume trois pièces sombre, cravate rouge, épaisse moustache, cheveux longs noués en natte, une boucle accrochée à l'oreille, des tatouages sur les mains. De sa voix rocailleuse, il dit que le 13 novembre 2015 a changé sa vie à jamais. Quand les tirs ont commencé, il a compris tout de suite, il a fui la scène. Nous avons tous couru pour sauver nos vies, résume-t-il à la barre. Le rocker américain parle de tragédie. Il prie pour les victimes et il ajoute que cette tragédie a pu être transformée en un flambeau de lumière et qu'il a pardonné aux terroristes qui ne pourront jamais tuer le rock'n'roll. À la sortie de la salle d'audience, il s'arrête quelques secondes devant les micros.
Je me sens mieux. Je suis entouré avec l'amour de mes amis ici en France. Et c'est l'amour qui gagne. C'est important de pardonner. Je suis chrétien et tout le monde peut être perdu sur son chemin. Chacun doit trouver sa voie. Donc je leur pardonne. J'espère qu'ils trouveront la paix divine.
Puis le chanteur des Eagles of Death Metal et son ex-guitariste quittent rapidement le palais de justice après avoir serré des fans dans leurs bras, des fans qui se sont succédés pendant plus de 5 heures à la barre. Beaucoup de témoignages extrêmement bouleversants comme celui d'Ophélie qui vient de confier ce soir qu'avant elle était solaire, que maintenant elle est dans la noirceur. Une partie de moi est morte à ce concert.
Sophie Parmentier avec Thomas Robin, témoignage des parties civiles encore toute cette semaine à la cour d'assises spéciale de Paris. Après la nomination d'Elisabeth Borne au poste de première ministre, on attend toujours un nouveau gouvernement. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de conseil des ministres avant jeudi ou vendredi. La nouvelle chef de Matignon, elle a déjeuné avec Emmanuel Macron, plus de 3 heures de discussion ce midi. Elle s'est aussi rendue ce matin à l'Assemblée nationale pour rencontrer les députés de la majorité, motiver les troupes en vue des élections législatives. Elle-même sera bien candidate dans la 6e circonscription du Calvados en Normandie. Elle maintient sa candidature. Alors qu'en pensent ses adversaires sur place, Steven Goyer?
Bonjour monsieur.
Sur le marché, le discours a déjà changé lors de la distribution des tracts.
Contre Elisabeth Borne, la première ministre qui va se présenter dans la circonscription.
Noé Gauchard, le candidat de la NUP dans la 6e circonscription.
Parce que c'est un symbole de la Macronie, c'est un symbole de ce qu'elle a pu faire pendant les 5 dernières années et ce qu'elle prévoit de faire avec le gouvernement Macron dans les 5 prochaines. On sent bien que voilà, les gens en ont marre, les gens n'en veulent plus. Donc si en plus ils peuvent participer à dégager un symbole énorme de la Macronie dans leur propre circonscription, je pense que ça peut les motiver.
La candidate et première ministre serait même trop éloignée des préoccupations locales pour Linda Lahal, représentante de l'Union de la droite et du centre.
C'est d'abord une candidature qui est éloignée du territoire. Et à quoi ça servirait d'avoir une ministre représentante de l'État dans les territoires quand l'État, effectivement, se désengage de plus en plus des territoires ruraux?
Valérie Dupont, elle, partira sous la bannière de Reconquête. Pour elle, Elisabeth Borne...
Elle est parachutée. Ah oui, 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 je le dis, je le redis. Ah oui, oui. Il faut bien savoir que Mme Borne n'en a jamais été une élue. Et quand on n'a pas été une élue et de terrain, elle va avoir du mal.
Même sentiment chez le candidat Liberté et Territoire, François Ormain.
Cette nomination l'éloigne du territoire. Elle devient un peu moins légitime. Elle va donc faire campagne pour son suppléant.
Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron était arrivé en tête dans la circonscription avec plus de 30% des voix.
Elisabeth Borne qui devrait se rendre dans sa circonscription en fin de semaine. De son côté, Jean-Luc Mélenchon monte au créneau et menace une action référée devant le Conseil d'État. Le chef de file des Insoumis réagit à la circulaire adressée au préfet par le ministère de l'Intérieur en vue des législatives. Circulaire où sont mentionnées les nuances politiques des candidats et il n'y a pas de case NUP, la Nouvelle République Populaire Écologique et Sociale. La polémique autour de la décision de la ville de Grenoble d'autoriser le burkini dans les piscines municipales, la pilule ne passe pas débat pour Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il veut couper les vivres au conseil municipal d'Éric Piolle, le maire écologiste de la ville. Laurent Wauquiez dénonce une rupture avec la laïcité. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir.
Il veut donc suspendre les aides à la commune, mais est-ce que c'est bien légal?
Alors Laurent Wauquiez l'a expliqué ce matin sur France Bleu, impossible pour lui de continuer à collaborer avec un maire, Éric Piolle, qui l'accuse de séparatisme. Mais qu'entend concrètement le président de région lorsqu'il dit qu'il cessera immédiatement toute subvention? Arrêtera-t-il de financer les lycées, les transports qui sont pourtant de sa compétence? Non, répond son entourage. Ne seront concernées que les futures demandes de subvention pour des manifestations culturelles, par exemple. En a-t-il le pouvoir et surtout, est-ce légal? Eh bien, a priori, oui, la droite a la majorité au Conseil régional. Elle peut donc voter contre certaines subventions. Mais attention à ne pas dépasser les bornes, explique l'avocat spécialiste en droit public, Gauthier Jamet.
Ça pose un problème dans le sens où finalement on vient détourner la finalité des subventions qui est normalement de répondre à un intérêt régional. Si les subventions sont refusées pour un motif qui est complètement extérieur à ça, qui est par exemple lié au Burkini, effectivement il peut y avoir ce qu'on appelle un détournement de pouvoir.
Alors l'affaire pourrait-elle tourner au bras de fer politique? La mairie de Grenoble est en train de regarder si des recours juridiques sont possibles. De son côté, Laurent Wauquiez a de nouveau semé un petit caillou sur le régalien, sa marque de fabrique. Ce n'est évidemment pas anodin alors qu'il réfléchit à reprendre le parti LR. Pas le moment de répondre à cette question, indique son entourage qui décrit un Laurent Wauquiez consacré à 100% aux législatives mais aussi un peu au Burkini.
Anne Souhaitemont, merci.
Le président de l'ASN, autorité de sûreté nucléaire, pas très rassurant aujourd'hui.
Bernard Derouzou qui présentait son rapport 2021 devant les sénateurs et l'Office parlementaire des choix scientifiques chargé de conseiller les parlementaires. Le traitement des problèmes de corrosion sur les réacteurs prendra plusieurs années, dit-il. Il faut donc s'attendre à de nouveaux arrêts. Le problème n'est pas lié au vieillissement. Les réacteurs les plus anciens ne sont pas touchés. Il s'agit d'un problème générique et le président de l'ASN demande donc un plan Marshall pour les futurs réacteurs.
J'ai pris l'expression « plan Marshall ». Parce que, en fait, elle est significative d'un moment important dans notre histoire. On peut dire qu'on est dans une situation où on passe d'une période où on n'imaginait pas autant de projets à une période où on a plein de projets. Donc on change de situation. Je pense qu'il faut le planifier. Et le planifier de manière solide, en sachant qu'il faut payer d'avance le recrutement, il faut payer d'avance la formation. Il faut vraiment avoir une stratégie de planification, de financement, qui requiert un engagement de la part des pouvoirs publics. S'il n'y a pas cet investissement, nous aurons des déboires dans les chantiers nucléaires et nous aurons des problèmes de qualité qui ne seront pas acceptables au regard du niveau de qualité que l'on attend du nucléaire.
Bernard Derouzouk, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, avec Delphine Simon. Et oui, les motards vont devoir passer le contrôle technique comme les automobilistes. Mesure qui avait fait grincer des dents plusieurs milliers de motards dans toute la France en 2021, l'an dernier. Mesure plusieurs fois reportée. Eh bien, le Conseil d'État a tranché. Il faudra mettre en place les mesures dès le 1er octobre prochain. Bonsoir Xavier Demagny.
Bonsoir.
Et c'est donc un succès pour les trois associations qui avaient saisi la justice et qui contestaient le calendrier du gouvernement.
Oui, et notamment l'association Râle Scouts, par exemple, son porte-parole Franck-Olivier Taureau est ravi que le Conseil d'État leur donne raison.
D'autant que la réglementation européenne imposait que les véhicules soient soumis à ce contrôle technique à partir du 1er janvier 2022. Donc c'est vrai qu'on n'est déjà pas dans les clous. Et en fait, le Conseil d'État trouve que les mesures alternatives proposées par le gouvernement sont extrêmement floues et que le gouvernement ne propose rien comme mesure alternative finalement.
Le gouvernement qui cet été avait annoncé une entrée en vigueur de ce contrôle technique pour les scooters et les motos au 1er janvier 2023, avant de rétropédaler à la demande d'Emmanuel Macron lui-même, le décret depuis est suspendu, on n'en savait pas bien plus. Cette obligation d'une entrée en vigueur finalement donc avant le 1er octobre 2022 va permettre de faire avancer les choses, estime Franck-Olivier Taureau.
Évidemment, le contrôle technique ne fera pas tout, ça on en est bien conscient. En revanche, pour nous, c'est une des mesures qui permettra de baisser les nuisances qui sont occasionnées par les usagers des deux-roues motorisés. Épaves roulantes, véhicules trafiqués, etc., ça aura forcément un impact positif.
Sur les nuisances sonores donc, mais aussi la pollution de l'air et l'accidentologie. Cette décision, une bonne occasion pour Elisabeth Borne, nouvelle Premier ministre, de concrétiser ses ambitions écologiques. Ironise pour sa part Respire, l'une des deux autres associations qui avait saisi le Conseil d'État.
Et pour vous y retrouver, un dossier complet sur franceinter.fr. Les bouquetins de Haute-Savoie sont sauvés. Le tribunal administratif de Grenoble vient de suspendre l'arrêté préfectoral pris en mars. Il avait autorisé l'abattage de 100 170 animaux dans le massif du Bargis en cause d'un cas de brucellose dans un troupeau de bovins en novembre 2021. La forte mobilisation des associations de protection de l'environnement a donc payé l'abattage et suspendu les bouquetins emblématiques de toute la faune de la montagne qui sont protégés, on le rappelle.
Eh bien, merci beaucoup. Tant mieux pour les bouquetins. Jacqueline Fardel pour le journal. On se retrouve demain. Nous, on reste ensemble dans un tout petit instant. C'est le téléphone sonne. On va se demander ensemble si Première ministre, c'est un sujet ou une anecdote. Hein, tout de suite pour en parler avec vous. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Elodie Calac, très chaud demain.
Oui, le matin, il fera 11 à 18 degrés, 18 degrés à Paris, à Toulouse. L'après-midi, 20 degrés à Cherbourg et à Brest, 23 à Nice, mais 29 degrés à Lille, à Perpignan, 30 à Rennes, à Aurillac, 31 à Strasbourg, Paris, Nantes ou Nîmes. Il fera 32 degrés à Bourges, Grenoble, Tarbes, 33 à Lyon et 34 pour Bordeaux, Toulouse ou Montélimar. On pourrait d'ailleurs battre des records pour un mois de mai entre le sud-ouest et la vallée du Rhône.
Et tout ça, bien sûr, sous le soleil.
Oui, juste quelques nuages bas ou brouillards autour de la Méditerranée le matin. Sur la pointe bretonne, encore pas mal de nuages et quelques gouttes. En fin de journée, ça deviendra instable de l'Aquitaine au nord-ouest avec des averses, des orages parfois forts avec un petit peu de grêle. D'ailleurs, ce soir, on a des orages qui éclatent sur le nord des Pays de la Loire, sur la Normandie, et ce temps instable va remonter un peu vers le nord de la Seine. Et puis, pour les jours suivants, jeudi, vendredi, il fera encore très chaud. Ça commencera quand même à baisser un peu au nord pour ce week-end.
Merci beaucoup, Elodie Calac de Météo France.